Je vous propose d'écouter aujourd'hui Nathalie Hainich. Alors Nathalie Hainich est sociologue, donc nous sortons du domaine de la littérature. Nous avons écouté des spécialistes de littérature et d'auteurs différents jusqu'ici. Mais elle a beaucoup écrit sur l'art, sur la littérature notamment, sur l'évaluation, hein, sur les valeurs. Elle s'est intéressée à toutes les professions artistiques, aux pratiques culturelles, et donc il me semblait que c'était intéressant d'avoir son point de vue dans le cadre des réflexions que nous menons. Il se trouve d'ailleurs que j'ai cité tout à l'heure l'économiste Galenson, dont je vous ai parlé il y a quelques leçons, hein, sur la différence entre les expérimentateurs et les conceptualistes, et je crois que vous avez publié un compte-rendu d'un de ses premiers livres il y a quelques années. Donc c'est un économiste, et moi je suis un littéraire, mais la sociologue peut s'intéresser. Donc il y a au fond une jonction qui se fait que je n'avais pas du tout prévue par ce type d'intérêt. Alors, le titre qu'elle nous a donné aujourd'hui est « Les fins de la production littéraire en régime vocationnel ». Ah, le mot de vocation est là, mais c'est un mot qu'on n'ose plus trop utiliser, mais « régime vocationnel » le sauve. Vous pouvez y aller.
Nous sommes sauvés. Merci beaucoup de votre invitation. Et donc, en effet, comme vous venez de le souligner, l'enjeu pour moi, c'est un petit peu d'arriver à articuler mon propos de sociologue de l'activité artistique, disons, avec votre propos d'historien de la littérature. Et évidemment, je me suis calée sur le titre de ce séminaire, donc « Les fins de la littérature », en précisant d'abord, pour cadrer ce que je vais vous proposer, que je vais prendre littérature non pas au sens de ce qui est produit, mais de la production elle-même, c'est-à-dire de l'écriture, hein, comme processus de production de la littérature et non pas comme résultat, d'une part. Et deuxième cadrage, je vais prendre le mot « fin » au sens non pas de but ou d'objectif, mais de terme, le fait de mettre fin. Hein. Et d'ailleurs, j'ai remarqué en préparant cet exposé qu'il n'y a pas de substantif pour le fait de finir. On ne peut pas utiliser ni « finitude », ni fin, parce que fin, c'est une fois que c'est fini, mais l'action de finir, hein, ni finition, qui a un autre terme. Voilà, on a un petit problème sémantique, mais bref, ce sera donc le fait de mettre fin, et donc, qu'est-ce que mettre fin à l'écriture? Et je vais essayer de traiter de cette question d'un point de vue sociologique, en m'intéressant à la création littéraire en régime vocationnel. Donc, je vais essayer d'expliquer ce que j'entends par régime vocationnel. C'est une notion que j'avais mise en place dans mon deuxième livre, « Du peintre à l'artiste », qui avait été publié en 1993, en montrant comment on peut distinguer trois grands régimes d'activité, le régime artisanal, le régime professionnel et le régime vocationnel. Et dans « Du peintre à l'artiste », je m'étais intéressée au passage chez les peintres et les sculpteurs du régime artisanal au régime professionnel, à l'âge classique, disons, à l'âge académique. Et donc, le régime artisanal, ça consiste essentiellement à fabriquer des objets grâce à une compétence manuelle. Bon. Le régime professionnel est très différent puisqu'il consiste à fournir un service à partir d'une compétence à base essentiellement intellectuelle. Bon, ce sont les médecins, les avocats, les cadres administratifs, etc. Et puis, le régime vocationnel, celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est un régime qui consiste à vouer sa vie à des œuvres de l'esprit, ces œuvres de l'esprit pouvant être aussi bien religieuses, et c'est le sens initial du mot vocation, que scientifiques, il y a bien des vocations de savants, ou artistiques, et je vous renvoie sur ce point à l'excellent petit livre de Judith Schlanger sur la vocation, qui est vraiment une base magnifique pour aborder ce sujet. Elle l'a publié au Seuil en 1997. Je viens de voir qu'il a été réédité dans la collection Agora, en livre de poche, donc il se trouve facilement. Donc, régime artisanal, régime professionnel et régime vocationnel, J'explique maintenant ce qu'il en est du mot « régime ». C'est tout simplement, c'est un terme qu'on utilise beaucoup aujourd'hui en sociologie pour qualifier, disons, la coprésence de conditions d'activité qui sont liées entre elles. Alors, je m'explique. Pour ce qui est de l'écriture, dans les conditions d'activité, il y a d'abord les ressources. Alors, en régime vocationnel, la ressource est éventuellement, essentiellement le don, hein, le fait d'être né avec ce qu'on appelle un don pour l'écriture, qui est fait de talent inné et de travail. Hein, et c'est cette conjonction du talent inné et du travail qui fait le don essentiel, pour l'essentiel. Bon. Autre condition d'activité du régime vocationnel, les modalités de l'activité, c'est-à-dire ce qui fait qu'on a cette activité d'écriture. Et en régime vocationnel, la modalité essentielle, c'est ce qu'on appelle l'inspiration, qui s'oppose à la commande, c'est-à-dire au fait d'exécuter quelque chose pour répondre à une demande préexistante. Avec cette ressource très particulière qu'est l'inspiration, l'auteur n'obéit qu'à cette instance, à la fois intérieure et extérieure, j'y reviendrai, qu'on nomme l'inspiration. Autre ressource, proprement vocationnelle, les modalités de la reconnaissance, parce qu'il ne faut pas oublier que l'écriture, c'est bien sûr le processus qui pousse à l'activité littéraire, mais c'est aussi, après, une fois la publication advenue, ce qui fait que cette, ou même avant la publication, pour que la publication advienne, la reconnaissance de la qualité littéraire qui fait que l'auteur va pouvoir être considéré premièrement comme un auteur publiable, ce qui est déjà un enjeu fondamental, puis comme parmi les auteurs publiés, un auteur de premier plan, si possible. Et dans ces modalités de la reconnaissance en régime vocationnel, il y a, de façon très fondamentale, la question du désintéressement, c'est-à-dire le fait de reconnaître que l'auteur n'écrit pas pour simplement gagner sa vie ou pour répondre à une demande, mais qu'il répond pour des fins proprement littéraires et que le gain financier n'est qu'une conséquence possible de son activité, mais pas la cause de l'activité. Et cette question du désintéressement, sur laquelle Pierre Bourdieu a beaucoup insisté dans ses travaux sur la littérature, est évidemment fondamentale dans ce régime vocationnel. Et donc, si l'on s'intéresse à l'interrelation de ces conditions, puisque j'ai dit que la définition du régime, c'est la coprésence et donc l'interrelation de ces conditions d'activité, eh bien, on voit que la vocation, c'est ce qui permet à l'artiste de rendre le don qu'il a reçu en donnant lui-même sa vie à l'art sans certitude de rétribution immédiate. Ça pourrait être une définition possible de la vocation, ce qui permet à l'artiste de rendre le don qu'il a reçu en donnant sa vie à l'art sans certitude de rétribution immédiate. Autre caractéristique propre à ce fameux régime vocationnel, c'est sa transcendance, c'est-à-dire qu'il est vécu par celui qui l'éprouve, qui l'expérimente, comme le fait que le don et l'inspiration sont octroyés par une valeur suprême et au nom d'une valeur suprême qui peut être dans la vocation religieuse Dieu, dans la vocation scientifique la science, la vérité, et dans la vocation artistique l'art, la littérature, etc. Tout, l'activité se fait au nom d'une valeur transcendante à l'existence terrestre immanente de l'auteur. Et puis, autre condition fondamentale dans le régime vocationnel, c'est un étrange mélange de passivité et d'activité. C'est-à-dire que quand il y a vocation, il y a le sentiment d'être appelé, hein, être appelé au passif, et en même temps de se vouer actif. Hein. C'est-à-dire c'est une posture active de réponse au sentiment passif d'avoir été désigné. Et là, cette conjonction antinomique, oxymorique, pourrait-on dire, de passivité et d'activité, est fondamentale dans le régime vocationnel. Je passe là-dessus parce que je développe toutes ces questions dans un livre qui s'intitule « Être écrivain », sous-titré « Création et identité » que j'ai publié en 2000, 10 ans après avoir fait une longue enquête sur le statut d'écrivain en 1990 à la demande du Centre national du livre, enquête qui n'avait pas été publiée et donc que j'ai complétée pour en faire un livre en 2000, et où donc je développe toutes ces questions de régime vocationnel en littérature. Alors, un dernier mot sur la question de la vocation. Quand je parle de vocation, il ne s'agit pas, comme on dit, d'y croire ou ne pas y croire. Quelquefois, quand je parle de vocation, on me dit « Oh, moi, j'y crois pas à la vocation ». Bon, ma question de sociologue n'est pas de savoir s'il faut y croire ou pas, mais de comprendre ce que les gens expérimentent lorsqu'ils conçoivent leur activité dans ce régime-là. Hein. Et donc, il s'agit de faire ce que j'appelle une sociologie compréhensive des représentations. C'est-à-dire que j'essaye, d'une part, de comprendre la logique de ce que les gens éprouvent, ressentent, conceptualisent, expriment, etc. Et une logique non pas de la réalité objective, mais de la réalité telle qu'elle est représentée mentalement par les gens. C'est-à-dire prendre au sérieux les représentations mentales partagées comme un objet légitime de la sociologie, alors qu'une grande partie de la sociologie est une sociologie, disons, très positiviste, qui ne s'intéresse qu'au statut objectif. Grande partie des enquêtes sur les écrivains, c'est combien ils gagnent, est-ce qu'ils sont à la sécurité sociale. Bon, c'est très intéressant, mais moi, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est comment ils vivent leur statut d'écrivain. Et dans ces représentations, il y a la dimension à la fois imaginaire et symbolique qui s'ajoute à la réalité, hein, ou à la dimension réelle de ce qui est vécu. Et tout mon propos de sociologue, c'est de montrer que la sociologie ne doit pas s'en tenir à une description de la réalité telle qu'elle est objectivement, mais doit y ajouter cette forme particulière d'expérience qui est la construction de l'imaginaire et la construction de la dimension symbolique de l'expérience. Je ne développe pas, ce serait trop long, mais je vous renvoie à l'ouvrage où j'ai le plus développé cette idée-là, qui s'intitule « L'élite artiste, excellence et singularité en régime démocratique », que j'avais publié en 2005 et qui vient d'être réédité en folio. Donc, une sociologie compréhensive des représentations et non pas une sociologie explicative et critique, qui est probablement la sociologie que ceux qui connaissent la sociologie actuelle connaissent le mieux, puisqu'elle a été fortement popularisée par l'œuvre de Pierre Bourdieu, qui s'est essentiellement concentrée sur à la fois une explication de l'expérience par des causes extérieures, par exemple l'origine sociale, le niveau d'études, etc., et une explication qui débouche très souvent sur une dimension critique de la domination, etc. Bon, je ne pousse pas là-dessus, mais voilà, c'est pour essayer de cadrer un tout petit peu le type de sociologie que je vais essayer d'illustrer aujourd'hui en parlant des fins de l'écriture. Alors, pour parler de cette question, il faut aussi développer une dimension du régime vocationnel qui est fondamentale, qui est le fait qu'il obéit à une temporalité spécifique. Bon, et ça, c'est très, très fondamental. Alors, par rapport à cette question de la temporalité propre au régime vocationnel, que signifie la question « mettre fin à l'écriture en régime vocationnel » ? Et je vais simplement vous citer un petit extrait d'un roman magnifique de Knut Hamsun qui s'intitule « La fin », qui a été publié en 1890. Il s'adresse à sa logeuse qui veut le chasser parce qu'il n'a plus d'argent. Il est poète, il est écrivain. Et il lui dit « Il est possible que l'esprit me visite demain, peut-être même dès cette nuit. Il n'est pas du tout impossible qu'il me visite tout à coup cette nuit. Et alors mon article est fini en un quart d'heure au plus. Voyez-vous, il n'en est pas de mon travail comme de celui des autres gens. Je ne peux pas m'installer et produire une certaine quantité par jour. Je n'ai qu'à attendre le moment. Et il n'est personne qui puisse dire le jour et l'heure où l'esprit viendra sur vous. » Il faut que cela suive son cours. Et vous voyez dans cette magnifique citation la transcendance, hein, l'esprit, et là, l'impossibilité d'assigner une temporalité prévisible à l'acte d'écriture. Et donc, on voit bien que cette transcendance propre au régime vocationnel implique ce qu'on peut appeler une autodétermination de l'activité, ou bien C'est-à-dire que c'est l'écrivain lui-même, hein, c'est sa force d'écriture qui détermine son activité, mais en même temps, une sorte de détermination par une instance extramondaine, une instance transcendantale, qui fait que lui-même ne sait pas, hein, quand va arriver l'inspiration. Et cette double dimension active et passive, d'autodétermination et de détermination transcendantale, s'oppose à l'hétérodétermination par une instance immanente qui est tout simplement la demande sociale et qui, elle, ne vaut que pour le régime professionnel ou le régime artisanal où l'on exerce, où l'on produit sur demande. Donc on voit bien là cette question de la temporalité spécifique du régime vocationnel. Cette autodétermination vocationnelle est liée à un déplacement historique de l'extériorité divine à l'intériorité de l'écriture, c'est-à-dire de ce que j'ai appelé l'autodétermination subjective. Seul moi-même peux décider à quel moment j'écris, et en même temps de cette idée d'une détermination transcendante qui vient d'une entité sur laquelle l'artiste n'a pas de prise. Et je vais citer, pour illustrer ce déplacement chronologique, historique, hein, de la détermination transcendantale à l'autodétermination, je vais citer Paul Vane dans René Char en ses poèmes, hein, qui a été publié en 90. La pratique de l'écriture paraît mettre en contact avec des forces ou des processus qui dépassent l'homme. On éprouve un frisson sacré qu'on attribuait autrefois à un dieu ou à une noble figure, l'inspiration avec un grand I. Aujourd'hui, on le rapporte à l'écriture elle-même avec un grand E. Non pas par quelque culte moderne et individualiste de l'expérience romantique avec un grand E encore, ni parce que l'homme se serait substitué au dieu dans le rôle du créateur avec un grand C, mais pour la raison inverse. Réduit à lui-même, l'individu est davantage porté à parler de lui, de ses difficultés, de ses états d'âme, qu'à célébrer l'œuvre comme merveille sortie des mains des dieux. La fiction platonicienne du poète inspiré est issue d'une projection. La poésie, dépassant visiblement les forces humaines, elle est née d'un délire divin. On supposait que le poète, tandis qu'il la composait sous la dictée des dieux, se trouvait dans le même état de félicité délirante que celui qui se trouve cristallisé dans l'œuvre. On inférait du résultat la psychologie de la création. Mais nos contemporains ne croient plus sur parole aux dieux. Ils veulent toucher, comme saint Thomas, et ce qu'ils touchent, ce sont leurs propres plaies. Le corps du poète est constellé de blessures que lui a infligées une puissance inconnue qui le gouverne. Voilà, magnifique citation de Paul Vane. Il faut aussi souligner dans ces caractéristiques du régime vocationnel l'indétermination, c'est-à-dire l'imprévisibilité de l'inspiration. Cette indétermination est une caractéristique commune au monde vocationnel des écrivains et des artistes à l'époque moderne, où prime une exigence d'authenticité qui va souvent de pair avec le refus de toute détermination, de toute dépendance à quoi que ce soit d'autre que la création, la fameuse nécessité intérieure de Kandinsky. D'où l'injonction paradoxale propre à la création littéraire, sois indéterminé, hein, qui pourrait résumer un petit peu, hein, cette question de l'indétermination, qui est une sorte de pivot identitaire propre à tous ceux qui sont, comme l'écrivait Bourdieu dans Les règles de l'art, déterminé à l'indétermination. Et je vous renvoie aussi sur cette question de l'indétermination, non seulement au très bel article de 77 de Bourdieu sur l'éducation sentimentale de Flaubert, qu'il reprendra dans Les règles de l'art, mais aussi, bien avant, en 1956, à un important article d'Étienne Souriot, du mode d'existence de l'œuvre à faire, et au livre de Georges Poulet, qui s'intitule, excusez-moi, La pensée indéterminée, hein, qui parle aussi très bien de cette question de l'indétermination. Et donc cette indétermination propre au régime vocationnel agit sur les trois moments de la fin de l'écriture, et c'est maintenant que je vais en venir au cœur de ma réflexion. Le premier moment, c'est s'arrêter d'écrire, à court terme, hein, quand est-ce qu'on pose la plume. Le deuxième moment, c'est finir un livre, moyen terme. Et le troisième moment, et c'est ce que vous venez de traiter dans votre cours, c'est en finir avec l'écriture, c'est le long terme. Alors, premier moment, court terme, s'arrêter d'écrire. Le problème de s'arrêter d'écrire en régime vocationnel, c'est qu'il y a une forme de temporalité totale de la création qui produit une captation de l'écrivain par son activité d'écriture, un investissement total dans l'écriture. Et pour un magnifique témoignage de cette situation, je vous renvoie au petit livre de Christiane Rochefort qu'elle a publié en 70 et qui s'intitule « C'est bizarre l'écriture » et qui est un témoignage absolument renversant de ce rapport très particulier à la création romanesque qu'un écrivain peut entretenir lorsqu'il est vraiment dans cette expérience très particulière que j'ai appelée le régime vocationnel. Et donc, dans cette modalité-là, est-ce qu'un écrivain peut vraiment s'arrêter d'écrire ? Alors, j'ai retrouvé la citation d'un des écrivains que j'ai interrogé pour mon enquête et qui dit « On dit toujours qu'un écrivain, il ne travaille pas, il est en travail. Ce n'est pas faux. J'ai essayé d'arrêter d'écrire, mais je n'y suis pas arrivée. » Et il faut dire quand même qu'il utilise son journal intime comme une œuvre littéraire. Donc on voit bien comment le journal est ce qui lui permet de ne jamais arrêter d'écrire. Et donc la captation par l'écriture caractérise l'acte d'écrire au moment où il s'exerce dans un investissement total. D'où la difficulté à assigner un découpage standardisé des moments de la vie entre temps du travail d'écriture et temps hors travail. En régime vocationnel, l'écriture désigne non seulement l'acte même d'écrire, mais aussi la disponibilité à écrire. Elle relève d'un état permanent. Elle excède donc l'opposition ordinaire entre temps de l'activité professionnelle et temps de loisir. À la différence d'un ouvrier, d'un employé, d'un commerçant, d'un artisan, d'un enseignant, d'un médecin, l'écrivain qui n'est pas en train d'écrire n'en est pas moins virtuellement en état de travail, forgeant des phrases dans sa tête, élaborant la construction d'une intrigue, ruminant les pages qui viennent d'être écrites ou prélevant dans ce qui l'entoure une matière à utiliser. D'où la fameuse question dont se gossait Roland Barthes dans Les Mythologies, un écrivain peut-il vraiment prendre des vacances ? L'irréductibilité de l'activité de création à une activité professionnelle ordinaire se cristallise dans l'incapacité du créateur à prendre des vacances, ou du moins à accorder même une pertinence à cette notion. Même en dehors de l'acte d'écrire, l'état de semi-vacances qu'est la vacuité de l'écrivain non investi sur un texte, non poussé par l'aspiration, glisse vers la négation de toute possibilité de vacances au sens du temps de loisir s'opposant au temps de travail. Et c'est donc le thème des impossibles vacances de l'écrivain que dénonçait Barthes comme un mythe et qui revient comme un leitmotiv chez les écrivains que j'ai interrogés en réponse à la question sur les vacances d'écriture. L'un me répond « Jamais, pour moi ce serait comme si je manquais d'oxygène. S'il y a une devise qui est restée la mienne, c'est bien « Nulla dies sine linea », pas un jour sans une ligne. » Un autre me dit « Jamais, pour moi la vie n'est pas séparée, avec d'un côté le travail et puis le repos ou les vacances ou la décontraction ou la mise en sourdine. » Un autre encore me dit « Quand je n'écris pas, je me sens coupable de ne pas écrire. » Et un autre « Si au bout de 4-5 jours, je n'ai pas ma machine à écrire, mes livres, etc. « Oh, ça va mal, ça va mal. » Et donc, ça, c'était le premier moment, les raisons pour lesquelles un écrivain en régime vocationnel a bien du mal à s'arrêter d'écrire au sens de poser la plume ou fermer son ordinateur. Deuxième moment de l'arrêt de l'écriture, qu'en est-il de finir un livre ? Et là, je vais citer Maurice Blanchot dans L'Espace littéraire. L'écrivain ne sait jamais si l'œuvre est faite. Ce qu'il a terminé en un livre, il le recommence ou le détruit en un autre. On voit bien là la dimension subjective de l'indétermination vocationnelle, ici appliquée à la question de l'œuvre et notamment du moment où c'est fini. La question de l'aboutissement du travail, ce point d'arrêt où un texte sera achevé et publiable. Alors, dans certains cas, on peut ne pas pouvoir finir un livre et c'est l'exemple fameux de La course contre la mort de Proust, hein, qui, jusqu'au dernier moment, a ajouter des éléments à son œuvre. On peut aussi ne pas arriver à finir une œuvre, et c'est le thème de la longue nouvelle de Balzac, le chef-d'œuvre inconnu, avec le gâchis de Fraenhofer, qui, à force d'en faire trop, finit par gâcher le sublime de sa peinture par l'excès pictural. On peut aussi ne pas vouloir finir, c'est le cas des impressionnistes, avec le fameux non fini qui leur était reproché, mais qui était évidemment voulu chez eux pour casser avec la logique académique. Et puis, il y a l'ambivalence du finir. On a envie, lorsqu'on écrit, d'aller jusqu'au bout d'un texte, de le voir terminé, puisque c'est pour ça qu'on travaille. Et en même temps, on prend tellement de plaisir à l'écrire qu'on appréhende le moment où il sera fini. Vous connaissez la blague du petit garçon qui pleure en mangeant son chocolat et à qui son père dit « Mais je croyais que tu aimais le chocolat, pourquoi est-ce que tu pleures ?» Il dit « Mais parce que c'est bientôt fini. Bon, » voilà. Et je pense que beaucoup d'écrivains sont dans cet état-là au moment de finir un livre. Heureusement, il y a une butée extérieure qui leur permet de mettre un terme à l'écriture d'un livre, c'est la publication. Il faut bien, à un moment, envoyé à l'éditeur. Quelquefois, l'éditeur l'attend, quelquefois, il y a un contrat, quelquefois, il n'y en a pas. Mais en tout cas, ce moment de la butée du monde extérieur est fondamental pour avoir ce sentiment que l'œuvre est enfin achevée. Le problème étant que la publication implique une irréversibilité, puisque une fois qu'on a publié, on ne peut plus y toucher. Contrairement au peintre, qui a le droit de modifier son tableau même une fois exposé. L'écrivain, lui, s'il veut modifier son texte une fois publié, il doit attendre une réédition et la première édition demeure archivée à la Bibliothèque nationale. Donc il y a vraiment une irréversibilité du point final, d'où quelquefois probablement la difficulté à accepter qu'on ne puisse pas y revenir et donc qu'il faille en finir. Il y a d'ailleurs une spécificité juridique du statut de la publication. Ce qui est qu'on ne peut pas obliger un auteur à finir, contrairement aux activités régies par le droit traditionnel du contrat. Je vous lis ici un extrait d'un livre des juristes Marie Cornu et Nathalie Mallet-Poujol, qui s'intitule « Droit, œuvre d'art et musée ». Donc c'est plutôt sur les arts plastiques, mais pour le coup, ça s'adresse aussi à l'écriture, je les cite. « Liberté fondamentale, l'acte de créer ou de ne pas créer heurte de front la loi du contrat. En ne remettant pas son œuvre à l'éditeur avec qui il a contracté, l'artiste faillit à une obligation librement consentie. Il ne peut s'affranchir des conséquences de l'inexécution fautive. Le défaut d'inspiration n'est pas constitutif d'une force majeure. Il engage donc sa responsabilité contractuelle et doit réparation à son co-contractant sous la forme de dommages et intérêts en application de l'article 1142 du Code civil. » Il peut rembourser son éditeur, mais il ne peut pas être obligé de fournir le texte, car on ne saurait le forcer à réaliser l'œuvre. La solution est classique au regard de la nature de l'obligation et plus encore du caractère personnel très marqué de l'opération. On estime qu'il y a une incompatibilité profonde entre la nature de l'activité créatrice et le type de contrainte propre au droit du contrat. On risquerait une production médiocre sans inspiration. La dimension créatrice s'accorde mal avec le procédé de l'astreinte. » Fin de citation. Et là, vous voyez parfaitement la différence juridique entre le régime vocationnel d'un côté et de l'autre, les régimes professionnels et artisanaux, où la loi du contrat s'applique normalement. Cela dit, il y a une diversité des rapports à la fin de l'écriture d'un livre. Il y a toutes sortes de cas. J'ai rencontré le cas d'un romancier qui identifie la véritable maîtrise de l'écriture à la capacité de sentir le moment où il faut s'arrêter de modifier un texte où il est à son état d'achèvement. Sensation purement intuitive, mais qui fait, pour certains, la maîtrise littéraire. On sait le moment où il faut arrêter de corriger. Voilà. J'ai rencontré aussi un écrivain qui ne s'en remet qu'à lui-même. Il dit « ça va quand je marche ». Bon, et puis quand je marche plus, c'est fini. J'ai rencontré aussi un écrivain qui fait appel à des lecteurs extérieurs en faisant lire autour de lui. Lis et dis-moi si je peux l'envoyer à l'éditeur. C'est assez classique. Même moi, je fais ça. Certains se fixent une limite arbitraire. Un poète me dit « je m'étais fixé 100 poèmes que je jugeais bons ». Alors, est-ce que c'est la raison pour laquelle son premier et unique recueil ne fut jamais publié ? Je n'en sais rien, mais en tout cas, il n'a jamais été publié. Et on voit donc dans cette diversité des rapports au sentiment d'achèvement du texte, l'importance de la question de la publication, puisqu'elle cristallise cette indétermination fondamentale qu'est l'état d'achèvement de l'œuvre, le moment où elle a atteint le maximum de perfection dont son auteur est capable. Et c'est ce que j'ai appelé la montée en objectivité, c'est-à-dire que le fait de publier transforme l'activité d'écriture en un objet, qui s'appelle un livre, et objective à tous les sens du terme le travail qui a été produit par l'écrivain. Et cette montée en objectivité est absolument nécessaire dans ce que j'appelle le régime de singularité, je vais y revenir, pour que la singularité qui est constitutive de l'excellence à l'époque moderne, hein, de la définition de l'excellence artistique, pour que cette singularité ne soit pas perçue comme une simple bizarrerie, comme un délire, comme une folie, comme du n'importe quoi, mais soit considérée comme le propre de l'excellence. C'est-à-dire que pour qu'un auteur qui innove, qui fait des choses hors du commun, originale, novatrice, personnelle, ce qui définit la qualification en régime de singularité, par opposition à la qualification en régime de communauté, qui est le fait d'écrire des choses convenues, communes, standardisées, déjà connues. Eh bien, pour que cet écrivain qui produit, qui crée en régime de singularité, arrive à un stade d'excellence reconnu, pour que sa singularité signifie l'excellence et non pas au contraire l'incapacité à produire des choses acceptables, eh bien, il faut cette montée en objectivité symbolisée par la publication. Et ça, c'est absolument fondamental. Et pour ce qui est de la question du régime de singularité opposé au régime de communauté, je l'ai développé dans mon premier livre, La gloire de Van Gogh, en essayant de comprendre comment la singularité bizarre de la peinture de Van Gogh a très vite quitté l'orbite de la disqualification par défaut de capacité à peindre pour entrer dans l'orbite de la surqualification par originalité, inventivité, qui va lui permettre d'être reconnu comme un grand artiste. J'en viens maintenant au dernier moment de l'arrêt de l'écriture, qui est donc finir d'écrire, en finir avec l'écriture. C'est la question de la finitude et de l'infinitude à la fois de l'œuvre. Je reviens sur cette question à Maurice Blanchot, qui écrit « Seule la maîtrise de l'artisan s'achève dans l'objet qu'il fabrique. L'œuvre, pour l'artiste, est toujours infinie, non finie. » Et vous voyez l'homologie que propose Blanchot entre, d'un côté, l'artisan et l'artiste, régime artisanal, régime vocationnel, et de l'autre, l'objet et l'œuvre. L'œuvre au sens général, non pas un roman, non pas un poème, mais l'ensemble de l'œuvre d'un auteur. Et on sait que Blanchot a su donner son expression la plus poétique à l'expérience de l'écriture en ce qu'elle a de plus spécifique, de plus opposé à la trivialité des labeurs ordinaires, en l'occurrence la différence entre la maîtrise artisanale qui est close sur son objet et la maîtrise artistique qui est ouverte sur un espace d'interprétation qui échappe largement à son auteur. Alors, on connaît des tentatives de maîtrise de l'achèvement de l'activité d'écriture. Vous avez tout à l'heure évoqué le dernier concert de la diva, la dernière tournée du chanteur, mais sera-t-elle vraiment la dernière? Je ne connais dans l'histoire littéraire qu'un seul exemple d'arrêt programmé de l'écriture, donc d'auteur qui a décidé du jour où il arrêterait d'écrire. Il s'agit de Roger Laporte, qui raconte cette expérience dans Entre deux mondes, publié en 88 et que j'avais interviewé dans mon enquête. Mais je ne l'ai rencontré qu'une fois, c'est un cas extrêmement rare. Ce qui est beaucoup plus fréquent, c'est la peur de ne plus pouvoir écrire. La peur de la panne d'inspiration, la fameuse angoisse de la page blanche, l'angoisse de l'impuissance créatrice, qui est une conséquence de la passivité de l'écriture, du fait que l'on reçoit ou pas l'inspiration, c'est-à-dire l'autorisation à écrire. Et c'est cette passivité constitutive du régime vocationnel qui engendre, bien sûr, cette peur de ne plus pouvoir écrire. On peut comparer cette question avec la fameuse interrogation psychanalytique sur l'analyse terminée ou l'analyse interminable. Il est toujours difficile d'identifier la fin lorsque c'est le processus et non pas le but qui donne sens au cheminement. C'est le thème de la transitivité de l'acte d'écrire quelque chose contre l'intransitivité de l'écrire comme fin en soi. J'écris, hein, et non pas j'écris un roman, un poème, etc. Car ce qui compte, ce n'est pas tant ce qu'on écrit, mais le fait d'écrire, hein, l'intransitivité, écrire. Dans cette indétermination propre au régime vocationnel, on voit bien une fois de plus comment la question de la fin de l'écriture est prise entre toujours cette transcendance symbolisée par l'inspiration et l'autodétermination symbolisée par la détermination purement subjective et non pas par une demande extérieure. Alors dans mon livre Être écrivain, je l'avais sous-titré Création et identité, ce qui m'amène à poser cette question: que devient l'identité lorsqu'elle est définie par l'activité, en l'occurrence l'activité d'écriture, et que cette activité prend fin? D'où, me semble-t-il, une partie de l'angoisse ou du caractère extrêmement crucial de cette question de mettre fin à l'écriture, parce que quand c'est l'écriture qui définit votre identité, que devenez-vous dès lors que vous vous arrêtez d'écrire? Alors, je me suis tournée pour approfondir cette question vers un petit livre que je trouve remarquable, hein, de Max Billen, qui s'intitule « Le sujet de l'écriture », où il parle notamment, il parle de beaucoup de choses, mais notamment de l'œuvre moderne, l'œuvre littéraire moderne, comme récit de l'autocréation de l'écrivain. Je le cite: « On serait en droit de considérer l'œuvre poétique comme le récit de l'itinéraire par lequel l'écrivain se crée écrivain, de la même manière que le récit mythique raconte l'ascension à travers épreuves et hauts faits d'un individu obscur à la dignité mythique. » Fin de citation. Donc, est-on encore écrivain lorsqu'on décide de ne plus écrire ou qu'on ne parvient plus à écrire? On risque fort la crise d'identité, et je cite encore Max Billen, « À travers la recherche du salut par l'écriture, élevée au niveau d'une foi religieuse, puisqu'elle implique une transcendance de l'homme, Kafka et Proust ont mis l'accent sur la nécessité de poser les fondements d'une identité entre vie pratique et vie spirituelle, identité qui est un mouvement propre au judaïsme. » Alors, l'œuvre reste infinie du vivant de l'auteur, et c'est sur cette dernière dimension que je vais insister pour finir. Ce qui échappe forcément à l'écrivain, c'est la finitude de l'œuvre tout entière, autrement dit, la somme ouverte des écrits qui lui sont imputables. L'œuvre est par définition infinie, d'abord pour l'auteur, puisque l'achèvement de l'œuvre se confond normalement avec la fin de sa propre vie, sauf s'il a décidé d'arrêter d'écrire avant, de sorte que l'achèvement d'une œuvre au sens large est toujours en suspens tant que vit l'auteur. Aussi, l'auteur est toujours d'une certaine façon en attente de son œuvre accomplie, qui appartient pour l'essentiel, dans le meilleur des cas, à la postérité. Ce sentiment d'infinitude de l'œuvre est donc pour l'écrivain une autre façon de vivre l'état d'indétermination propre au régime vocationnel. Ouverte ou infinie, l'œuvre peut l'être enfin pour la postérité, puisqu'on peut n'en avoir jamais fini d'exhumer des écrits, des brouillons, des lettres qui viendront s'ajouter au corpus des publications autorisées du vivant de leur auteur. Si l'indétermination propre à l'écriture touche à l'inconsistance des bornes à l'entrée dans le statut d'écrivain, elle tient également à la perpétuelle extensibilité des bornes définissant l'auteur. C'est cette ouverture de la définition de l'œuvre au double sens de délimitation et de qualification qu'a mise en évidence Michel Foucault dans son fameux article « Qu'est-ce qu'un auteur ?», en montrant comment l'auteur est à envisager moins comme un être que comme une fonction. La fonction auteur, détachée à la fois de la matérialité d'une personne et de la matérialité de ses écrits, de sorte que l'exégète ne dispose pas de critères stables permettant de décider parmi tout ce qui est de la main d'un auteur, un texte signé, un brouillon, une lettre, une note, une facture de blanchisserie, ce qui est ou non publiable. Foucault se livrait là à une entreprise de dénaturalisation de la notion d'auteur en montrant les diverses manipulations dont elle est redevable, appropriation juridique avec la construction de l'opposition entre le bien et l'acte, variation historique selon les genres, élaboration des règles de cohérence logique dans l'attribution d'un discours à un individu et sur le plan formel, mise en évidence de la spécificité référentielle des embrayeurs, le locuteur réel, le locuteur fictif, l'auteur. Contre l'hypothèse d'une détermination naturelle de la notion d'auteur, il opérait là une relativisation qui lui valut de se voir reprocher la mort de l'auteur alors qu'il ne proposait que la désubstantialisation de sa notion. J'en viens à ma conclusion. On voit que la question de la fin de l'activité d'écriture en tant que mode de production de la littérature se pose de manière très spécifique en régime vocationnel, indistinction entre l'œuvre et la vie, investissement total, indétermination, passivité, transcendance des ressources autorisant l'écriture avec le don et l'inspiration, s'arrêter d'écrire, terminer un texte, en finir avec l'écriture sont des gestes non pas impossibles, certes, mais beaucoup plus problématiques que pour d'autres types d'activités, qu'elles soient artisanales ou professionnelles. Merci de votre attention.